Soit dit en passant, ça a été une autre bonne journée en bourse.
Oui, mais les gens m'écrivent, il y a un gars qui m'écrit aujourd'hui, il me dit, écoute, j'aime pas comment tu parles des CPG. Tu es méprisant envers les certificats de pauvreté garantis. Non, ce que je dis, c'est qu'un jeune qui a 20 ans, 30 ans, même un adulte qui a 35 ans, ne pourra pas se bâtir un actif raisonnable avec une épargne moyenne s'il ne prend pas de risques. Et c'est pour ça que les gens qui ont peur de la bourse, qui ont peur de la bourse, en fait, dites-vous que la bourse, ce n'est qu'à des participations dans des. C'est un tableau de bord de participation dans des entreprises. Si je suis actionnaire de la Banque Royale, oui, le titre, il y a de la volatilité en bourse, mais je suis actionnaire d'une entreprise. Si je vous disais, hey, je suis actionnaire d'un dépanneur, tu vois, wow, t'as ton entreprise. Hey, j'ai tout concentré mon risque à la même place. On panique pas. Mais si je dis, j'ai un millionième d'actions, des actions d'une entreprise cotée en bourse, on dit que je prends du risque. C'est pas le casino, là. C'est des flux monétaires futurs qui sont actualisés en date d'aujourd'hui et qu'on distribue aux actionnaires, soit par le gain de valeur, soit par des liquidités avec des dividendes. Donc, on n'a pas le choix de prendre du risque dans un monde comme le nôtre parce que le rendement des sans risque, ben, ne permet pas de s'accumuler d'une valeur quelconque. Donc, faut apprendre à prendre du risque. Faut apprendre à avoir un horizon de placement loin. Donc, ne pas placer de l'argent pour les 2 prochaines années, mais les 20 prochaines années. Réinvestir les remboursements derrière. Donc, tout ça va nous permettre d'avoir une capacité d'absorber la volatilité. Même chose avec le CELI. Si on remplit notre CELI à long terme, on va peut-être avoir de la volatilité sur nos titres, mais on va avoir beaucoup moins de volatilité sur nos revenus de retraite liés avec ça, l'impôt.
Ça, c'est sûr.
Donc, tu sais, des fois, ils disent, oui, mais la bourse va peut-être planter, je vais tout vendre. Je ne peux pas, historiquement, dire à des gens de faire ça. Parce que historiquement, si vous gardez vos actions, par exemple, d'une banque qui vous donne un 4% de dividende, vous allez quand même avoir votre dividende. Il va y avoir une variation de la valeur, mais votre dividende va rentrer en liquidité. Donc, ouais. Prendre du risque vous donne du rendement, une portion un peu plus sécuritaire, une portion non sécuritaire, mais, tu sais, les derniers mois nous le démontrent. La baisse de 14% du trimestre de 2018 a été compensée par une hausse du trimestre 2019. Donc, ceux qui n'ont pas vendu ont peut-être pas fait de rendement sur certaines actions, mais ont eu leur dividende pareil et ont gardé leur position, donc leur capacité à générer du risque et du rendement. Mais ce n'est pas du mépris de dire qu'il y a des titres qui sont sans risque. Si vous avez 60 ans, allez-y dans le sans risque. Mais si vous avez 20 ans, l'inflation risque de vous battre. C'est-à-dire que vous allez vous appauvrir tout en ayant épargné parce que vous allez refuser du rendement, parce que vous refusez de prendre un certain risque calculé.
Easy Financière, je ne connais pas cette compagnie.
C'est une compagnie qui travaille un peu au Québec, pas depuis quelques mois, et qui dit le suivant. Les banques vous ont refusé, faites-vous-en pas. Nous, on vous offre un prêt personnel jusqu'à 35 000. On vous dit oui quand les banques vous disent non. Bon, quand les banques sont rendues à pas vous prêter, c'est que vous avez dépassé le Rubicon de la santé financière. Avant d'aller voir une compagnie comme ça, ce que je vous suggère, c'est d'aller voir un syndic de faillite pour voir est-ce que votre position peut se redresser. Parce que j'ai fait un test. Ils nous disent, ah, c'est meilleur que les taux d'emprunt sur salaire. Donc, toujours prendre un pire taux que le sien pour dire que notre taux est bon. Mais c'est 35,99% annuel, le taux de financement. Ça veut dire une fois et demi et plus un taux de carte de crédit de magasin. On nous dit, ah, tu peux nous rembourser, là, sur 2 ans, 5 ans. Mais j'ai fait un test. Je dis, OK, je vais prendre un simulateur. Je vais rentrer 15 000. Donc, je rentre un prêt de 15 000 $. On me dit que c'est à 35,99 et ça donne des paiements quelconques sur 60 mois de 680
$.
Oh,
écoute,
mais,
pour un prêt de 15 000.
Pour un prêt de 15 000, même pas, le comptable en moi,
c'est... Oui, non, c'est un loyer, ça.
C'est un loyer. Le comptable en moi, s'est mis à la calculette, Paul. Alors, j'ai recalculé le taux avec une fonction Excel ou une calculatrice financière. Et le taux implicite de financement est 50%. En fait, 49,64 nominal. Donc, 4,14 par mois. Comment j'y arrive? C'est pas compliqué. On t'affiche 35,99. On l'affiche. Mais, implicitement, il y a des frais d'administration, de gestion et d'ouverture de dossier. Mais pour un emprunteur, que t'appelles ça frais de gestion, frais d'administration ou frais d'ouverture de dossier, Ça demeure des frais à l'emprunt et donc le taux implicite d'emprunt est de 50 %.
Ah, t'as rendu compte.
Donc, écoute, si vous voulez vous emprunter à 50 %, moi, je suis prêt à prendre des chances puis vous prêter 500$ à 50 % pour un an puis que ça finisse à 7,50. Tu comprends? Non, mais tu comprends comment c'est un peu fou? Je veux bien croire que les gens qui empruntent là sont très à risque, mais si vous êtes rendu là, c'est peut-être le temps de restructurer les finances autrement, soit par une consolidation, si ça fonctionne pas, c'est le syndic, ou une autre situation financière, mais quand vous êtes rendu à du quasi-prêteur sur gage légal, tu sais, c'est un peu risqué. Là.
Alors, Luc Ferrandez a raison, selon toi, la croissance infinie est impossible. Mais je trouve qu'il a raison sur bien des points. Pas nécessairement dans la façon dont on peut les régler.
Oui, mais on peut rire de Luc Ferrandez, on peut dire « Ah, il est extrémiste, tout ça », mais il dit « Regardez, là ». Regardez ce qui s'en vient, il n'est pas alarmé. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le déni, tu sais, qui disent non, ça n'existe pas. On est de plus en plus de milliards d'êtres humains sur Terre. Nous consommons de plus en plus. Le poids moyen des véhicules depuis les années 70, mais il réduit pas à la hauteur de notre évolution technologique. Nous avons de plus gros véhicules qu'avant. Nous avons de plus grosses piscines, c'est plus chauffé, les maisons sont plus grandes, on consomme plus, notre consommation d'électricité augmente, tout est plus électrique. Notre voiture va être électrique peut-être, mais on consomme. Donc, tout ça est une consommation d'éléments, d'énergie et de matériaux. Et on met encore sur le marché des matériaux qui sont non recyclables, non récupérables et on les vend. Donc, dans le prix des biens qu'on achète, le monde capitaliste fait quelque chose. Il se dissocie complètement des externalités. Ce qui veut dire, si j'achète un emballage, par exemple, quelque chose au magasin, c'est suremballé dans un plastique plutôt non recyclable, genre le numéro 6 qu'on a bien de la misère à recycler au Québec, ça va aller aux poubelles. Et donc, je n'ai pas payé le coût d'une externalité, c'est-à-dire j'ai nationalisé le coût, j'ai remis sur la population le coût réel de ma consommation parce qu'il y a un produit qu'on ne recycle pas, qu'on ne récupère pas et qui va nuire à l'ensemble des gens. Quand je prends l'avion, c'est la même chose. C'est l'offre et la demande, c'est le coût du pétrole, mais la pollution, les impacts environnementaux, le coût de ça est externalisé. Et donc, l'économie ne peut pas fonctionner tant et aussi longtemps qu'on n'internalise pas les coûts. J'avais commencé un doctorat, Paul, en comptabilité, et mon objectif, c'était de faire une thèse sur rentrer les coûts externes dans les coûts des choses. Le problème, c'est qu'il y a raison, on s'en fout. Tu sais, prends le pacte. Le pacte, c'est une belle initiative. Mais quand je vois quelqu'un signer le pacte, puis quelques jours plus tard, s'en allant à Paris pour 3 jours, en avion,
t'sais,
tu peux pas dire d'un côté, « Hey, je signe le pacte, puis de l'autre côté, je suis cohérent. » C'est vouloir être vert tant que ça m'affecte pas.
Ou le donc, même militant, le même militant va évidemment utiliser son ordinateur pour pondre un texte, réaliser un document.
Faire une recherche Google.
Il va peut-être mettre ça sur une carte micro SD. La carte est minuscule.
Elle est dans un plastique gigantesque.
Écoute, le maudit plastique carton qui entoure des objets minuscules, miniatures. C'est scandaleux.
Pour le marketing, Paul, pour vendre l'objet, pour te faire croire que tu payes pour beaucoup alors que c'est très peu.
Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui disent, « Madame la mairesse, arrêtez de vos niaiseries sur interdire des pailles et puis interdire ceci et cela. » Comment se fait-il qu'il ne se fait rien sur des objets de consommation qui sont hyper emballés dans le plastique?
On les achète en même temps comme consommateurs parce qu'ils prennent de la place tablette, sont en évidence. Faut dire, en fait, le futur est peut-être dans assez. Parce que le capitalisme, c'est jamais trop. Donc, on achète plus, on consomme plus, on s'ennuie, on consomme, on va chez McDo, on va en jouer, on le jette. Ça va prendre éventuellement une prise de conscience planétaire de dire, est-ce que j'en ai assez? Et les gens se disent, oui, mais j'ai de l'argent. Mais si t'as de l'argent, c'est peut-être parce que t'en as trop. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça, hein, le minimalisme ou réduire. On ne s'en sortira pas. Avec le nombre de milliards de personnes qu'on est sur Terre, on va oxyder nos océans, on va enlever de plus en plus de place sur Terre. Faut s'empiler, il faut se condenser, faut vivre dans plus petit. Et la seule façon que l'être humain change son comportement de façon globale, c'est lorsqu'il n'a pas le choix parce que c'est trop cher. Alors, faudra un jour que notre comportement humain soit reflété dans le prix. Et dans le moment, notre système économique ne reflète pas du tout le juste prix de ce qu'on consomme.
Sûrement pas.
On en voit sur les autres têtes et les autres générations.
Ça commence par le pétrole.
Exactement, en fait. Si c'est assez cher, Paul, je te dirais que nos voitures seraient plus petites, comme dans certaines décennies.
C'est arrivé à un moment donné que le prix du pétrole a grimpé et t'as vu plonger les ventes de gros véhicules pour aller vers les petits... Et les fabricants avaient compris. Pierre-Yves, à demain. Merci.